Le Mag de l'Immo by Bérénice sur Radio Immo.
Et oui, bonjour, bienvenue, on est en direct sur LinkedIn, on est en direct sur YouTube aussi. Bienvenue dans ce Mag de l'Immo, nouveau format, voilà, on teste des choses sur Radio Immo, on a décidé de le faire en direct. Et pour ce premier numéro, eh bien, on va parler d'un sujet, et pas des moindres, la France face à l'urgence du mal-logement. Vous le savez peut-être, le 30e rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés, l'ex-Fondation Abbé Pierre, est tombé récemment. 350 000 personnes sont sans domicile. Il y a 4,2 millions de personnes mal logées. 2,7 millions de personnes attendent un logement social. On fait la demande, en tout cas. Voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment. Il était important de parler de ce mal logement en France. J'ai trois invités avec moi en plateau. Pascal Izoard-Thomas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la Fédération Habitat et Humanisme. Virginie Grelot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour Challenge, merci d'avoir accepté l'invitation. Et Manuel Domergue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des études pour la Fondation pour le logement des défavorisés, donc l'ex-Fondation Abbé Pierre, plus connue sous ce nom-là. Alors, pourquoi cette émission, on l'a dit, l'aggravation du mal-logement en France, on va parler des chiffres avec vous, et puis on va parler d'actualité aussi avec vous Manuel, puisque une mention de recours en justice contre l'État a été déposée, alors je crois que c'était hier, hein,
hier.
Voilà, c'est tout frais, donc l'État attaqué pour non-respect du droit à l'hébergement et au logement opposable. Alors, on va commencer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec justement le 30e rapport de votre fondation hein, sur le mal-logement. Donc, c'est un rapport qui, pour nos auditeurs, qui est publié chaque année, c'est ça, hein, à cette
absolument.
Période.
Depuis 30 ans, autour du 1er février, on publie ce qui est devenu un rendez-vous annuel pour les acteurs du logement, de l'exclusion et de l'immobilier en général. Et cette année, on a mis l'accent sur la question du handicap, les personnes qui sont en situation de handicap, quelles sont leurs difficultés particulières par rapport au logement. Et c'est aussi l'occasion de relire une année de politique du logement ou de non-politique du logement certaines années et de voir quels sont les indicateurs qui montrent l'aggravation ou l'amélioration parfois de la situation des personnes mal logées.
Alors moi j'ai relevé les chiffres bon, qui sont que tout le monde a relevé hein, que tous les médias ont relevé hein, Virginie arrêtez-moi si je me trompe, 350 000 personnes sans domicile fixe donc qui vivent dans la rue hein, c'est ça?
Alors sans domicile au sens de l'INSEE c'est soit à la rue soit en hébergement. C'est la définition de l'INSEE et la plupart ne sont pas à la rue, la plupart sont en hébergement d'urgence, à l'hôtel, hébergement de réinsertion ou dans les dispositifs pour les demandeurs d'asile, mais une partie de ces 350 000 personnes sont effectivement à la rue sans abri, c'est plus difficile de les chiffrer parce que par définition ils sont pas dans des dispositifs mais on imagine qu'il y en a plusieurs milliers voire dizaines de milliers.
Donc ils passent sous les radars en fait.
Ils sont plus difficiles à compter. Alors il y a des villes qui mettent en place des nuits de la solidarité pour les compter un soir donné. La ville de Paris a donné son résultat avant-hier, 3500 personnes à la rue rencontrées un soir donné par des bénévoles et des salariés, mais c'est une petite partie évidemment du territoire français et même c'est quand on passe dans la rue, on ne voit pas forcément, on n'arrive pas à compter forcément toutes les personnes qui sont sans abri, parce que certaines sont dans des copropriétés, dans des voitures, cachées et ne sont pas comptabilisées.
Alors, ce chiffre est en augmentation, enfin, hélas.
Oui, c'est pour le coup, parfois dans l'immobilier, il y a des tendances lentes. Là, c'est une tendance rapide. Hein. On a 350 000 personnes donc sans domicile. Elles étaient 143 000, d'après l'INSEE, en 2012. Donc, on a plus que doublé. Ce nombre est très inquiétant. Et il y a d'autres indicateurs qui nous montrent que ce n'est pas une vue de l'esprit. On a eu 735 personnes mortes de la rue en 2023. Mmh. C'est là aussi un record, un triste record depuis qu'on fait ce type de recensement avec le collectif des morts de la rue. Donc on voit que tous les indicateurs, en bas de l'échelle en tout cas, hein, en termes de logement, de mal-logement, sont à l'aggravation.
Mmh. Alors je l'ai dit en introduction, 2,7 millions de ménages attendent un logement social. Ça aussi, c'est un triste record.
Oui, là aussi, on est sur une tendance assez rapide. Hein, 2,7 millions, même 2,8 millions en cette fin d'année 2024, les derniers chiffres qu'on a. Il faut savoir qu'au début du quinquennat Macron, par exemple en 2017, il n'y a pas très longtemps, on était à 2 millions de ménages. Donc on est passé de 2 millions à 2,8 millions, 800 000 ménages supplémentaires dans la file d'attente pour le logement social. Et ceux qui font des demandes de logement social sont des ménages en difficulté en général, hein, soit dans des logements surpeuplés, soit sans logement du tout, hébergés chez des tiers, dans des logements indignes ou inadaptés à leur situation de travail, de handicap, de vieillissement. Donc on a davantage de demandeurs, moins d'attributions HLM chaque année. On est à peu près maintenant sous les 400 000 logements attribués chaque année, alors qu'on était à 500 000 il y a encore quelques années. Et puis, la production neuve de logements sociaux chute aussi. Et donc, ça annonce plutôt des mauvaises années, là, dans les années qui viennent, qu'un début de résorption de la crise du logement.
Autre chiffre, et après on terminera avec ces chiffres, autre chiffre alarmant, vous parliez des logements inappropriés, on va dire, enfin, inadaptés. 30% des ménages ont déclaré avoir ressenti le froid, avoir eu froid dans leur logement. C'était 14% en 2020. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Là aussi, la tendance, elle est encore plus rapide. On a un doublement en 4 ans, alors que pendant des années, les chiffres donnaient 15-14% de ménages qui avaient froid chez eux, ce qui était déjà beaucoup. Oui. Mais là, ça a doublé. La cause, elle est assez simple, c'est depuis le Covid et l'inflation. Donc, c'est précarisation d'une partie des ménages. Oui. Et de l'autre côté, augmentation très forte des prix de l'énergie. On l'a vu avec la guerre en Ukraine. Alors, ça se calme un petit peu maintenant, mais on reste à des niveaux très élevés. Et cette sensation de froid, c'est un peu subjectif, mais là, quand même, c'est tellement important, l'augmentation, que c'est significatif. Et puis, on voit aussi que les impayés d'énergie, qui se traduisent parfois à la fin par des coupures d'électricité, des réductions de puissance ou des coupures de gaz, atteint des niveaux qu'on n'a jamais connus, avec quasiment un doublement et plus d'1 million de ménages qui sont touchés par ce type d'intervention.
Et oui, je rappelle que certains ménages choisissent entre se nourrir ou se chauffer.
Exactement.
Absolument. Alors, on va parler des profils de ces personnes, peut-être avec vous, Virginie et Pascal. Alors, est-ce que vous pouvez, peut-être brièvement nous présenter votre Habitat et Humanisme que vous dirigez ?
La fédération, elle est composée d'une soixantaine d'associations qui agissent contre le mal logement sur le territoire national. À peu près 90 départements, enfin entre 85 et 90 départements couverts. Et notre action, elle est à la fois basée sur la mobilisation de solutions foncières pour produire du logement accessible aux plus démunis. Donc ça, on aura l'occasion, je pense, d'en parler tout de suite. Et également proposer des solutions qui s'adaptent aux situations les plus difficiles que rencontrent les publics qui souffrent de l'exclusion. Notamment, alors on est très heureux de la mise en lumière de cette question du handicap qui est extrêmement importante.
Bien sûr.
Et puis elle repose à la fois donc sur la mobilisation de ces solutions foncières qu'on essaie de trouver toujours dans les cœurs de ville avec une vraie volonté de mixité sociale dans les produits que nous mettons en œuvre, et une mobilisation du tissu social avec des bénévoles aux côtés de professionnels qui interviennent dans nos résidences, dans nos maisons, dans les appartements diffus qui peuvent exister dans la ville que nous possédons ou que nous mobilisons par le biais de propriétaires solidaires, pour que ces personnes qui ont connu l'exclusion retrouvent confiance en elles par le lien que ces bénévoles leur proposent, par le lien que ces bénévoles leur permettent d'avoir avec la cité, entre guillemets, se ressentir suffisamment solide pour pouvoir reprendre un parcours, retourner vers les services sociaux et repartir dans un parcours de vie avec des beaux projets. Voilà, donc ça, c'est un mouvement qui est très positif dans un contexte effectivement difficile et qui, aujourd'hui, on fête nos 40 ans cette année. En tout cas, on a vraiment une volonté de pouvoir partager nos expériences et le plus possible espérer que des solutions qui sont concrètes et qui se développent sur le territoire puissent se développer fortement et apporter des solutions.
Alors là, les solutions, on n'en a jamais eu autant besoin, Virginie. C'est vrai que quand on regarde comme ça, vous, en tant que journaliste spécialisé sur ces sujets-là, sur le logement, quel est votre ressenti ?
Alors, le ressenti, il est corroboré évidemment par les chiffres et les actions menées. On voit bien de toute façon que cette crise du logement s'étend. Puisqu'on constate aujourd'hui que même les ménages, les classes moyennes, c'est large la classe moyenne, mais cette classe moyenne, elle a aussi du mal à boucler ses fins de mois, à payer ses charges, à accéder à la propriété. Elle n'arrive pas à rentrer dans le parcours résidentiel en passant par le parc social. Le nombre de demandes aussi en hausse se traduit en fait par le fait que il y a plus de place dans le privé, notamment dans le parc locatif privé. Donc on essaye, peut-être que les gens avaient les moyens en tout cas de se tourner vers le parc locatif privé. Il est complètement saturé. Donc on se retourne vers le parc social, ce qui vient à accroître la demande. Il y a une mobilité qui est compliquée dans le parc social, puisque quand vous êtes en place, vous n'avez pas forcément intérêt à bouger. Et on sait que quand on a un trop grand logement, pour avoir un plus petit logement, il ne va pas forcément être situé au même endroit. Oui. Le niveau de loyer, ça ne va pas forcément être plus intéressant. Il y a toutes ces difficultés. On voit bien aujourd'hui qu'elles viennent en plus ce qu'on disait, problème de pouvoir d'achat, problème d'inflation, post-crise sanitaire, tout ça cumulé fait que la situation, elle se tend. On sait qu'il y a des salariés qui dorment dans leur voiture alors qu'ils ont un emploi. Ouais. C'est quand même quelque chose d'assez dur à admettre, mais dur à vivre encore plus, évidemment. Voilà, il y a tous ces publics et on sent que ça monte comme ça, comme une vague qui monte et qui gangrène, entre guillemets, de plus en plus les Français.
Et c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites. Il y a eu plusieurs phénomènes en fait, qui se sont enchaînés. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine hein, qui a perturbé aussi ce marché, la crise qu'on connaît, les pouvoirs publics aussi, le rôle des pouvoirs publics.
Hein, alors, le rôle des pouvoirs publics, puisqu'on voit quand même qu'il y a moins d'action publique dans le logement, voire très très peu. même si, après, on va vous dire, le ministère du Logement contredirait peut-être, enfin indique en tout cas qu'on est passé de 170 000 en début de quinquennat à 203 000, je crois, places d'hébergement d'urgence. Mais comme il y a de plus en plus de demandes, de toute façon, ça ne suffit pas. Donc même s'il y a eu un petit effort de fait sur cette question, il n'est pas suffisant. Et donc, toutes ces difficultés cumulées, elles sont très lourdes et très présentes. Et donc, hélas, malheureusement, effectivement, tous les ans, on attend le rapport de la Fondation. Et ça ne s'améliore pas, en fait. C'est ça qui...
Peut-être juste en complément, je me permets, c'est effectivement un sujet qui revient souvent. Le fait qu'on a créé beaucoup de solutions d'hébergement, notamment au sortir du Covid, l'État pouvant aussi dire avec raison hein, qu'il a fait un effort notable, quasi doublement, je crois, du nombre de places d'hébergement d'urgence, donc c'est-à-dire celles qui accueillent les gens sans solution, comme le droit le prévoit d'ailleurs. Mais en fait, il se trouve qu'à cette époque-là, moi, je travaillais au SAMU social de Lyon, porté par l'association Alinéa, et en fait, on a eu effectivement un phénomène de reflux du nombre de personnes à la rue, mais les personnes se sont trouvées bloquées dans l'hébergement. Pourquoi ? Parce qu'en parallèle, et depuis 2017 particulièrement, il y a une augmentation extrêmement importante du coût du foncier et du coût du logement. Et donc, on peut créer des places d'hébergement autant qu'on en veut. Si on ne crée pas le cycle de sortie, c'est-à-dire
le parcours résidentiel,
la possibilité
en fait, hein.
de sortir de l'hébergement et d'accéder au logement, ce qui aujourd'hui est un impensé avec des situations particulièrement graves en ce qui concerne les publics les plus isolés et qui ont des fragilités comme un handicap. Le rapport l'illustre très, très bien. Ou le vieillissement, ou le rapport des petits frères des pauvres est aussi extrêmement intéressant à ce titre-là. En fait, sur ces sujets-là, il y a plein d'impensés dans les politiques publiques et la solution de sortie vers le logement fait souvent défaut.
Virginie ?
Et non, mais c'est surtout aussi dans ces parcours où il y a des ruptures très douloureuses, il faut aussi penser qu'il faut. Le logement ne suffit pas, il va falloir un accompagnement. Je sais que, notamment, moi j'en avais visité il y a quelques années. Pension de famille chez Habitat et Humanisme. Et c'est vrai qu'avoir un référent, avoir quelqu'un qui a qui parler, etc. Oui. Et puis démêler tous les chouets administratifs qui est devant vous, quand vous êtes par exemple malade ou vous avez d'autres difficultés, ça vous semble insurmontable. Donc il y a le logement, mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi quelque chose autour du logement qui relève du social, dans le sens de l'humain, de la bienveillance, un peu de patience, un peu de tolérance. Ce n'est pas seulement des chiffres, parce que ce sont des êtres humains.
Et vous l'avez dit, alors, vous avez évoqué le mot rupture, et je crois que c'est un peu ça le départ, hein. Vous allez me le confirmer, Pascal. Ça peut arriver, c'est ce que vous me disiez quand on a préparé cette émission, ça peut arriver en fait à presque tout le monde en fait. Il y a une rupture à un moment donné pour les personnes qui sont sans domicile, il y a une rupture et puis après c'est le cercle vicieux, tout s'enchaîne. Virginie le disait très bien, il y a l'isolement. Et l'isolement alimente, on va dire, la précarité. On est tout seul. On a de plus en plus de mal. Et tout part d'une rupture. C'est ça. Arrêtez-moi.
Ça, c'est une des singularités, effectivement. Autant il y a une pluralité des manifestations que l'exclusion peut avoir auprès d'une personne. Et souvent, d'ailleurs, c'est pas une manifestation, mais des dizaines, ce qui crée d'ailleurs la complexité hein, pour résoudre les problématiques que rencontrent les publics, les sans-abri aujourd'hui. Par contre, ce qui est commun, effectivement, c'est d'avoir eu une rupture à un moment qui, dans un parcours déjà fragile, a fait une bascule.
Alors justement, est-ce qu'on peut avoir, vous qui êtes sur le terrain, est-ce qu'on peut avoir un peu les profils?
Oui,
de
on
ces
en parlait
personnes
tout à l'heure.
Oui, parce qu'on évoquait tout à l'heure, mais voilà, quels sont les profils? Alors peut-être Manuel, vous pourrez.
Oui, c'est des profils, c'est assez divers, mais on retrouve quand même très souvent les mêmes types de profils. Et c'est pour relativiser ce que vous disiez sur le fait que ça peut arriver à tout le monde. Théoriquement, oui, mais on retrouve quand même toujours un peu les mêmes catégories sociales. Oui. Déjà, les personnes qui ont des bas revenus, ça c'est quand même, quand vous avez des revenus importants, vous vous en sortez. Parfois, vous tirez la langue, c'est difficile, ça prend du temps, mais à la fin, vous ne finissez pas à la rue quand vous êtes ingénieur. Je veux dire, ça n'arrive pas à part dans quelques films. Donc, c'est les personnes à bas revenus, les personnes au chômage, avec un emploi précaire, et puis beaucoup de personnes avec un parcours migratoire. Et on sait que parce qu'à la fois, il y a une précarité administrative, quand on n'a pas de papier, quand on a du mal à faire renouveler ses titres de séjour, évidemment, il y a des ruptures qui s'enchaînent dans le travail, dans l'accès aux droits sociaux, dans l'accès au logement social. Donc, on est très dépendant des guichet de l'administration. Et puis aussi parce que quand on a un parcours migratoire, on n'a pas ou moins la chance d'avoir des relations sociales, un patrimoine familial qui peut vous aider en cas de coup dur. Donc ça, on retrouve beaucoup ce type de personnes qui sont en plus victimes de discrimination dans l'accès au logement locatif privé, parfois au locatif social, dans l'accès à la propriété, dans l'accès à l'emploi. Donc forcément, on les retrouve très surreprésentés à la rue, en hébergement d'urgence. On retrouve aussi des personnes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, par exemple. À peu près un quart des personnes à la rue, parmi les francophones, ont un parcours à l'aide sociale à l'enfance. Donc là aussi, c'est des personnes qui, par définition, n'ont pas un accompagnement familial optimum comme les autres.
Donc c'est quoi ouais, c'est des enfants qui ont été placés,
ont été placés
des enfants qui ont été abandonnés
par absence de famille, ouais. Soit famille défaillante, maltraitante, etc. Dans des parcours d'enfance, d'adolescence très difficiles, hein, marqués par déjà des ruptures au sein des institutions et qui se retrouvent parfois renvoyés à la rue à 18 ans parfois avant ou à 21 ans, avec très peu d'accompagnement, des conditions d'accès au logement, à l'emploi très difficiles, et on les retrouve beaucoup à la rue. Les personnes qui ont des troubles psychiatriques ou des problèmes sanitaires en général sont aussi très défavorisées dans la vie en général et dans l'accès au logement également, parce que, vous l'avez dit, il faut s'accrocher, c'est un parcours du combattant, quand vous n'avez pas les mêmes armes que les autres, il y a plus de chances de se retrouver à la rue. Et puis les personnes seules, vous l'avez très bien dit, hein, je pense qu'on a fait un rapport entier là-dessus, les gens qui sont seuls face au mal logement, seuls au sens de célibataire, dans le sens où quand on est tout seul pour payer un loyer, c'est beaucoup plus dur.
Bien sûr.
Et puis seul au sens d'isolement social, quand on n'est pas épaulé par des amis, la famille, un conjoint, une conjointe, on perd pied plus facilement et on est moins prioritaire aussi dans l'accès à l'hébergement d'urgence ou dans l'accès au logement que quand on a des enfants, même si on voit bien qu'il y a quand même des enfants qui restent à la rue, mais ça reste quand même un critère de priorité d'accès à l'hébergement au logement.
Justement, concernant ces profils, là, j'aimerais bien qu'on parle de ces jeunes en sortie d'aide sociale à l'enfance, donc ASE. C'est vrai que vous m'expliquez que y a beaucoup d'aide en France, hein, parce qu'on va quand même le dire, il y a beaucoup d'aide d'argent qui est distribué pour aider justement ces enfants, mais ça s'arrête à quoi? C'est leur 18 ou 21 ans?
Alors, depuis la loi Taquet, on est sur une... Donc, il date de 2021, je crois. On est sur une prise en charge jusqu'aux 21 ans par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il faut savoir que le revenu de solidarité active, qui est un des seuls revenus existants minimal, s'enclenche à 25 ans. Donc, il y a déjà, entre les 21 et les 25, une grande période de fragilité pour ces jeunes qui n'ont, rappelons-le, aucun soutien familial.
Donc, pas de parents
Ou alors un soutien familial défaillant.
Oui.
Voilà, donc c'est sûr que quand on rentre dans la vie, moi-même j'ai des enfants, ce moment de cet âge-là, c'est un moment où les parents sont quand même à distance, sont quand même étayants pour aider les personnes à trouver leur chemin. Et là, effectivement, ce sont des jeunes qui ont eu un encadrement alors plus ou moins facile et plus ou moins facilitant jusqu'à leurs 18 ans dans des institutions qui sont très encadrantes. Et puis entre les 18 et 21 déjà, il y a une phase de réduction de cet étayage et accompagné avec des formations. Mais il y a parfois, effectivement, pour les situations les plus fragiles, à ce moment-là, beaucoup, beaucoup de ruptures et un public qui est effectivement très isolé. Je dirais de manière générale, de toute façon, cette question de l'isolement est très présente et très prégnante dans la question, d'où la solution effectivement de ces pensions de famille qui sont bizarrement nommées parce que en fait on n'y accueille que des gens isolés et pas des familles. Mais en fait justement, on recrée cet esprit de famille autour
vous
de ces personnes.
Vous leur apportez une famille. Bon, et je rappelle qu'il y a c'est des bénévoles. Hein. Il n'y a pas que des bénévoles,
mais il y a aussi des salariés.
Il y a des salariés,
surtout,
mais des bénévoles.
Et surtout, il y a un appui sur les acteurs de l'action sociale qui sont autour de nous et qui aident les personnes qui sont logées dans leur logement, hein, dans ces pensions de famille. Et qui arrive à trouver effectivement un environnement favorable au rebond.
J'aimerais qu'on parle des femmes, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas du sexe. On a tendance à dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes à la rue. Pourquoi ? Et est-ce que les femmes ne seraient pas justement sous les radars ?
Oui, tout à fait. On a fait un rapport il y a 2 ans sur genre et mal logement. Et on s'est aperçu que les femmes étaient davantage touchées par le mal logement, par différentes formes de mal logement. Essentiellement, les femmes seules avec enfants. C'est là que c'est le plus difficile, les mères célibataires, familles monoparentales, c'est bien connu. Pour ce qui est de la vie à la rue, pour le coup, c'est très clair qu'il y a à peu près 85 à 90% d'hommes et donc 10 à 15% de femmes.
Et ça, comment on l'explique ?
Alors, on l'explique parce que être une femme à la rue, c'est extrêmement dangereux. Il y a vraiment, c'est, tout le monde le dit, le sait, le voit. Passer plusieurs nuits à la rue, c'est un risque extrêmement élevé d'être victime d'agressions, notamment d'agressions sexuelles pour les femmes. Et donc, elles sont davantage prêtes à mobiliser toutes les solutions, y compris des mauvaises solutions, pour éviter ce passage à la rue qui est extrêmement, encore plus difficile que pour les hommes. Évidemment, c'est jamais facile. Elles sont aussi davantage priorisées, et c'est normal, hein, oui, dans l'accès à l'hébergement, dans les places qui existent, qui sont insuffisantes, pour des femmes, notamment quand il y a des enfants. Et les femmes sont plus souvent accompagnées d'enfants que les hommes. Et donc, c'est ça qui leur donne davantage accès, notamment à l'hébergement d'urgence ou à l'hôtel, mais qui sont des conditions de vie difficiles, très difficiles,
oui,
très précaires.
C'est une solution d'urgence,
on rappelle. Mais on les voit moins à la rue, parce qu'elles sont moins à la rue. Et après, il y a aussi beaucoup de solutions quand il n'y a plus de place d'hébergement dédiée, des solutions chez des tiers, des amis, la famille... un conjoint ou un quasi-conjoint, mais avec aussi des situations d'abus de faiblesse de femmes qui sont prêtes à quitter la rue en allant un peu là où elles trouvent une place. Et parfois, des hommes en profitent. Et c'est des choses qu'on voit très souvent, y compris dans les petites annonces, services sexuels en échange de logement. Donc, les femmes sont très victimes de ça dans les colocations, dans la sous-location, dans l'hébergement bénévole chez les tiers, etc. Il y a souvent une contrepartie. Donc, elles sont très victimes de ça. Et puis après, comme elles sont discriminées avec des salaires moindres, des statuts sociaux plus difficiles, elles sont aussi plus touchées par la difficulté de trouver un logement locatif et donc sont davantage touchées par le surpeuplement, l'habitat inconfortable, l'effort financier excessif pour se loger.
Virginie, vous vouliez réagir justement
sur ça. Oui, c'est des chiffres qu'on avait déjà vus et qu'on constate. Et de toute façon, même sur une population plus favorisée, entre guillemets, si quand vous êtes une femme seule avec enfant et que vous demandez un crédit pour acheter, souvent comme vous avez des revenus, alors c'est caché par le fait que vous avez des revenus moindres et des charges plus importantes puisque c'est vous qui avez la charge des enfants. Mais votre taux de crédit, il est plus élevé que pour un homme dans la même situation. C'est quand même très injuste.
Ouais.
Et en fait, ça n'aide pas et ça fragilise puisque de toute façon, quel que soit le moment, la place dans la chaîne, les femmes sont plus en fragilité que les hommes.
Pascal, c'est ce que vous constatez. Avec votre expérience dans le SAMU social, justement, est-ce que vous avez des exemples, des retours terrain à nous faire
sur les publics? Ouais. Je crois que Manuel a tout dit. c'est la question des femmes, effectivement, peu visible à la rue, beaucoup plus cachée, mais il y en a également. Et cette question de l'isolement qui est centrale, comme on l'évoquait tout à l'heure. Mmh. Après, sur la question des femmes, je pense, en charge d'enfants, donc des familles monoparentales, il y a tout un ensemble de complexités qui, au-delà de ce qu'on a évoqué, vient rajouter à l'exclusion. C'est toute cette difficulté d'être à la fois charge de famille, souvent avec un conjoint qui conserve les droits parentaux, des difficultés de gestion de cet aspect-là, qui n'est pas simple non plus, et des difficultés qui peuvent se traduire par une volonté de protection, donc un renfermement de ces personnes avec leurs enfants, et une difficulté à aller chercher un emploi, à trouver des moyens de garde pour pouvoir rentrer en formation. C'est des sujets qui sont souvent...
Mais là, pareil, c'est un cercle vicieux, en fait.
C'est ça, ça fait partie de ces impensés que j'évoquais tout à l'heure. Par exemple, quand vous faites une formation, on parle beaucoup du logement d'abord, qui a été une réponse au fait qu'il fallait passer plein d'étapes avant d'entrer dans un logement en France avant. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans les politiques publiques. Aujourd'hui, la formation, c'est aussi un secteur dans lequel il faut passer plein d'étapes pour pouvoir pouvoir avoir accès à quelque chose qui vous ouvre à l'emploi. Et avec des dates d'entrée-sortie en formation qui sont rigides, si jamais vous ratez un jour de formation, on vous sort de la formation. Ouais. Il faut attendre trois mois après pour pouvoir re-rentrer en formation. Mmh. Donc, je sais qu'il y a une statistique qui a circulé à un moment dans le Rhône où on disait qu'il fallait plus de presque 18 mois pour une personne qui est en centre d'hébergement entre le moment où elle démarre un parcours de formation et le moment où elle atteint une formation qualifiante qui lui permet de travailler. Mmh. Donc, c'est extrêmement long et il y a plein d'étapes qu'on pourrait résoudre.
Alors, on va parler des solutions qui existent avec vous, justement. Donc, Habitat Humanisme, vous l'avez dit, agit depuis plus de 40 ans maintenant. On va parler d'un modèle, le modèle donc, du logement accompagné de l'habitat inclusif, avec un focus sur le modèle de la foncière solidaire que vous évoquiez tout à l'heure. On va dire un triptyque gagnant. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
Bien, en fait, c'est un système qui permet effectivement de mobiliser de l'épargne, l'épargne de tout un chacun, et également de l'épargne solidaire, de l'épargne salariale, qui a un certain nombre de pourcentages qui doit être consacré à des formes solidaires d'épargne. Donc les particuliers qui souscrivent à notre foncière achètent des titres.
Ils placent l'argent.
Ils placent leur argent pour 5 ans.
Qu'on soit bien clair.
Ils achètent des parts dans notre foncière. Et grâce à cet argent, en fait, nous pouvons apporter un niveau élevé de fonds propres dans des opérations foncières. Et ça nous permet, pour répondre à tout à l'heure un des constats qu'on dressait sur le fait qu'il y avait de plus en plus de difficultés à pouvoir trouver du logement privé pour les publics en situation de fragilité sociale, en fait, nous, ça nous permet de produire du logement privé à vocation très sociale. On est vraiment sur les plus bas niveaux de revenus parce qu'en fait, comme on met beaucoup de fonds propres dans nos opérations et qu'on a aussi une éligibilité aux subventions type les aides à la pierre, en fait, le reste à financer pour pouvoir mettre en location, pour pouvoir construire ou pour pouvoir réhabiliter, est couvert par des prêts de la Caisse des dépôts, de la Banque des Territoires, pardon. Et en fait, le loyer est calculé sur l'amortissement de ce prêt, donc qui représente entre, on va dire, un tiers et 40% de l'opération. Donc ça nous permet, par exemple, à Paris, aujourd'hui, de pouvoir produire du logement là où il est loué entre 17 et 20 euros du mètre carré. Dans des quartiers comme ceux-là, ben en fait, on arrive à pouvoir offrir du logement à 6 euros du mètre carré pour des publics qui sont au plus bas des échelles de salaire. Donc, c'est vraiment un outil efficace qui, finalement, a réuni l'État qui offre un avantage fiscal, oui, j'ai oublié de le dire, quand vous souscrivez.
Ouais. Dites-le, parce que pour ceux qui nous écoutent,
c'est important parce que les particuliers qui souscrivent, en fait, grâce à cet avantage fiscal, ils ont quasiment 6% de rapport sur leur investissement, grâce à la réduction d'impôts et aux petits dividendes que nous versons, qui est tout ridicule. Mais voilà, mais en tout cas, on a
donc
quand
c'est
même...
un bon placement.
C'est un très bon placement.
Je rappelle que le livret A est passé à 2,4%. Alors, c'est vrai que beaucoup de Français se demandent que faire de leur épargne.
Exactement. Donc là, on ne peut qu'inviter les particuliers à venir nous soutenir. Donc l'État est partie prenante, nous verse des subventions, donc il est quand même présent. On a également des mécènes privés qui nous aident à financer des opérations. Et puis, la Banque des Territoires, en l'occurrence, qui nous permet de boucler l'opération.
Virginie, quand vous entendez ce genre de solution, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup.
On n'en parle sans doute pas assez, ça c'est mea culpa pour la profession. Mais c'est aussi, il n'y a pas vraiment de dispositif, si ce n'est, on était tout à l'heure en préparant cette émission, on parlait du dispositif Loc Avantage, ou loué abordable, ou l'ancien dispositif COS. Parce qu'il peut y avoir aussi des solutions qui s'adressent aux particuliers sur de l'investissement locatif un peu plus traditionnel, alors qui est moins rentable à mon avis que ce que vous proposez. Mais ces dispositifs, ils ont connu des changements de nom, des changements de conditions. Ils sont pas très connus. Il devait y avoir au début des campagnes d'information par le gouvernement. Ça a duré 3 semaines et puis hop là, c'était fini. Donc le grand public ne connaît pas ces solutions. Mais pourtant, ils bénéficient d'avantages fiscaux en contrepartie de loyers très modérés, voire très modérés quand on passe par des agences immobilières solidaires. Donc, c'est des solutions très intéressantes qui peuvent donner un peu de sens aussi à l'épargne et au patrimoine des ménages, qui sont donc quand même rémunératrices. C'est pas... Alors, moins que le bitcoin, peut-être, sans doute, mais en tout cas,
ça dépend des moments.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ces solutions, elles ne sont pas assez connues. Et il faut absolument les faire connaître. Après, chacun décide, mais il faut les faire connaître au moins.
Donc, un placement responsable. Justement, alors, on parle de solutions. Vous, donc chez la Fondation Abbé Pierre, ex-Fondation Abbé Pierre, désolé, hein, mais on vous connaît plus avec ce nom-là. Qu'est-ce que vous constatez par rapport à ces solutions? Quel est votre retour?
Ben, elles sont efficaces. Hein,
c'est vraiment efficace.
Les retours sont plutôt bons. Mmh. Enfin, voilà, on a un tissu associatif aussi qui les met en place. On a aussi à la Fondation des actions soutenues qui vont dans ce sens-là, ça a fait ses preuves un peu partout sur le territoire. Le problème, c'est que ça reste à une échelle qui n'est évidemment pas suffisante pour répondre à toutes les demandes de logement. Il y a un modèle qui a fait ses preuves aussi à une échelle pour le coup beaucoup plus large, c'est le modèle HLM, hein, tout simplement, le logement social, qui repose sur des fondements qui ne sont pas très éloignés au final. C'est beaucoup plus public, mais au final, c'est jamais que du patrimoine qui reste dans le patrimoine de la nation, du foncier qui est mis hors du marché pour justement alimenter à long terme la production de logements, une aide de la Caisse des dépôts, Banque des territoires, avec des prêts avantageux, et une subvention de l'État. Voilà, c'est ça, et donc en échange de loyers encadrés attribués à des ménages sous plafond de ressources, etc., avec des règles de priorité. Ça, c'est un modèle qui a fait ses preuves à grande échelle. Hein. On a 5 millions de logements sociaux en France, je l'ai dit, 400 000 attributions de logements sociaux chaque année. Il y a peu de pays qui ont cet outil-là. Et heureusement qu'on a ça encore. Il est pas assez développé, mais il existe encore. Et sans ça, le logement d'abord, par exemple, dont on parlait, le fait qu'il y a à peu près plus de 100 000 personnes qui accèdent au logement alors qu'ils étaient à la rue ou en hébergement chaque année, c'est en grande partie grâce au logement social. Aussi grâce à des propriétaires privés qui s'engagent dans des intermédiations locatives, etc. Mais c'est quand même beaucoup de logement social. Et le logement social, c'est sur le très long terme. Alors que le locavantage, par exemple, dont on parlait, c'est quelques années. Donc l'État essaie de compenser fiscalement, etc., pour que ce soit avantageux pour les propriétaires privés. Avec les bailleurs sociaux, c'est un calcul à très long terme, donc c'est moins cher pour l'État, parce qu'il n'y a pas ces dividendes, c'est un secteur à but non lucratif. Donc c'est quand même aussi intéressant du point de vue de l'efficience de la dépense publique. Le problème, c'est que ça repose quand même sur des subventions de l'État. Et l'État a coupé très fortement ces subventions, ces aides à la pierre, depuis, pour le coup, pas simplement 2017, hein, même avant, mais maintenant il n'y en a quasiment plus. Et en plus, l'État a augmenté la TVA sur la production de logements sociaux en 2018, ce qui, même quand on prend un peu de recul, c'est assez fou. Le seul secteur qui est unanimement vu comme social, utile, qui a but non lucratif, c'est le seul qui a vu la TVA augmenter quand même dans l'immobilier. Et il y a surtout cette ponction, ce qu'on appelle la RLS, 1,3 milliard qui est pris chaque année, maintenant c'est 1,1 milliard, sur les bailleurs sociaux, et du coup ça leur coupe les ailes.
Bah oui, ils étaient à 120... D'ailleurs, il y a une baisse qui a été annoncée
dans le budget 2025. C'est 1,1 milliard, mais ça reste quand même une coupe budgétaire, moins importante que par le passé, mais quand même très importante, alors qu'on devrait au contraire les aider davantage. Et donc pour boucler leur fin de mois, ils font moins de logements sociaux, simplement, moins de rénovation énergétique que ce qu'ils pourraient faire, et puis ils vendent aussi des logements sociaux, donc ça fait des logements sociaux en moins, ou alors ils font des logements sociaux qui sont trop chers. Les loyers HLM des logements sociaux qui sortent de terre aujourd'hui sont bien souvent trop chers pour les ménages dont on parle, qui sont à la rue, qui sont en hébergement d'urgence.
Et la rénovation énergétique des logements sociaux, c'est un sujet, vous l'évoquiez, il y avait un plan qui avait été annoncé par l'ex-ministre du Logement, Patrice Vergriete, un fonds qui est tombé à l'eau d'ailleurs avec la dissolution de l'Assemblée nationale.
Moi, je pense que oui. Je
voulais peut-être, alors une petite parenthèse sur le logement locatif intermédiaire, le LLI qui est porté par l'État, qui serait aussi une solution. Alors, c'est pas les mêmes cibles. Là, c'est plutôt classe moyenne, mais en début d'émission, on l'a dit, ça peut être des gens qui... Enfin, ça peut être des ménages touchés par la précarité.
Si je peux me permettre, je pense que c'est un tout, en fait. Effectivement,
tout est bon à prendre.
Bah oui, parce qu'en fait, c'est Virginie disait, il y a vraiment une logique de parcours résidentiel et il faut pouvoir apporter des réponses aux différentes problématiques là où elles se présentent. Pour prendre un exemple sur le logement social classique par rapport au logement privé à vocation très sociale que nous développons avec la foncière, nous, par exemple, on va vraiment sur les publics qui sont sous les seuils de pauvreté, beaucoup plus massivement que le logement social classique, qui a une autre vocation. Mais dans notre esprit, le passage en logement accompagné dans nos logements privés à vocation très sociale n'est qu'une étape et permet de basculer peut-être après, effectivement, sur le logement social ou au contraire sur des logements que des bailleurs privés n'utilisent pas et nous confient pour pouvoir faire un glissement du logement accompagné vers un logement classique, enfin avec un bail classique. Voilà, donc le LLI, c'est effectivement effectivement peut-être demain une issue pour des personnes qui sont aujourd'hui dans du logement social au-dessus de certains seuils.
C'était Gabriel Attal, je crois, qui avait mis ça sur le plateau. C'est vraiment pour la classe moyenne qui travaille, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts.
Oui, alors c'est pour la classe moyenne qui n'arrive pas à se loger dans le parc privé le plus cher, enfin qui est considéré comme le plus cher, et qui n'arrive pas non plus à trouver de place dans le logement social, éventuellement parce que les revenus sont un peu trop élevés. Et là, mais pourtant, quand on prend les revenus auxquels les revenus pour être éligibles au logement social, ça concerne, je crois, 60 ou 65% des ménages en France. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent y prétendre. Il faut effectivement de la fluidité. Il faut effectivement aussi regarder à qui on s'adresse. On sait, dans la dernière conférence de l'USH, il y avait cette question, on l'a rapidement évoquée, mais du vieillissement des locataires HLM. Mmh. Ça veut dire que les logements ne vont pas forcément être adaptés à ces personnes-là. Et pour autant, les déplacer, c'est compliqué. Ça, on peut l'entendre. Donc, il va falloir réfléchir à ça. Il y a les rénovations énergétiques. Il y a aussi des populations plus jeunes, étudiantes, qui peuvent prétendre au logement social. C'est un peu la problématique de toutes ces dernières années. Il n'y a pas assez de vision et de politique du logement. Pour anticiper, pourquoi quand on prend une décision là, ça aura un impact là et là et là et là, et comment on reconstruit toute cette chaîne de manière à redonner de l'air pour que chacun puisse avoir un peu de fluidité et dans ses choix de vie, en fait, parce qu'on en est vraiment là. C'est-à-dire qu'on voit des gens refuser un CDI parce qu'ils n'arrivent pas à payer un loyer.
Le marché du travail. Voilà. Le logement, la crise du logement impacte le marché du travail.
Des étudiants renoncer à leurs études. Enfin, on voit plein des industriels qui se disent finalement, je vais peut-être pas mettre une usine là parce que je ne vais pas arriver à recruter, les gens ne peuvent pas se loger. On marche sur la tête parfois. Donc il faut décrisper ça, et ça ne passera, je pense, que quand on aura une vraie politique du logement, et il faut y mettre un peu les moyens.
Alors, Pascal, vous vouliez réagir. Et juste après, on prendra Paul Meyer par téléphone, qui est l'ancien adjoint au maire de Strasbourg.
Juste pour dire que finalement, la bonne nouvelle, c'est que la palette des solutions, elle existe. Ouais. Et que, par exemple, pour reprendre cet exemple, là, il y a eu des articles récemment sur des étudiants à Bordeaux qui louent des box de garage, un article extrêmement poignant qui était dans le journal Le Monde, je crois. Nous, par exemple, on a développé des solutions de logement pour des étudiants avec des personnes âgées très isolées et des familles monoparentales dans un même ensemble d'immeubles, ce qu'on appelle des maisons intergénérationnelles. Et en fait, par l'entraide qui se crée entre ces différents publics, il y a vraiment une inclusion dans la ville qui se crée. Et typiquement, voilà, ce type de solution.
Mais alors, est-ce que ça marche vraiment ? C'est bien, mais sur le terrain, parce qu'alors hier, on était avec Eugénie à la conférence de presse des promoteurs immobiliers. Ce sujet a été évoqué. Après, il a été dit que la demande n'était pas forcément là.
Vous,
ça fonctionne en tout cas.
Aucun problème.
Il faut leur expliquer.
On a 60 maisons intergénérationnelles. Aujourd'hui, on a 60 maisons intergénérationnelles développées sur le territoire et on pourrait en développer deux fois plus. Enfin, je veux dire, la profondeur de marché, pour reprendre un terme technique, elle existe. Peut aller aujourd'hui développer les maisons intergénérationnelles, il y aura de la demande.
Alors on parlera un peu plus en détail de la politique du logement dans quelques instants et justement de ce qu'il faudrait faire. Mais avant ça, on va prendre Paul Meyer. Alors Paul Meyer qui est avec nous au téléphone. Est-ce que vous êtes là, Paul ?
Oui, tout à fait. Bonjour Bérénice.
Bonjour. Alors, on va monter un tout petit peu le volume pour vous entendre. Vous êtes donc ancien adjoint au maire de Strasbourg et puis vous êtes enseignez l'attractivité et le développement des territoires. Alors, je vous avoue que je vous ai contacté. Je vous ai contacté ce matin parce que j'ai vu que vous aviez partagé des vidéos sur ce qui est en train de se passer à Strasbourg, sur l'évacuation d'un camp justement de personnes sans domicile.
Absolument, oui. 250 personnes et surtout des familles. Il y a toujours eu des difficultés et un nombre de places insuffisantes pour loger les plus nécessiteux. Mais là, on est dans une situation extrêmement grave où ce sont des familles. Il y avait notamment 85 enfants qui dormaient depuis plusieurs mois dans un parc public avec avec les températures qu'on imagine et dans les conditions météorologiques qu'on connaît. Et donc ce campement a dû être évacué, hein, à la demande de la mairie. Et aujourd'hui, une partie est relogée dans trois gymnases. Donc on est sur une situation plus que précaire. On est sur de la mise à l'abri, hein, pas sur du logement d'ailleurs. Voilà. Et donc ça illustre effectivement assez bien une crise qui touche toutes les strates de la société. Et ça va aussi bien de classe moyenne supérieure qui ne trouve pas de logement à louer en centre-ville ou autour, à des personnes en situation d'hébergement d'urgence.
Alors c'est ce qu'on disait, hein, Paul, dans cette émission juste avant votre intervention. C'est vrai que en fait, à tous les échelons, il y a un manque d'offres.
Oui, quand on regarde, on a un nombre d'hôtels qui sont réquisitionnés par l'État, pleinement mobilisés, plein à craquer. On a tous les dispositifs du 115 qui n'arrivent plus à suivre. Il y a eu des politiques pourtant volontaristes, hein, de mener depuis les années 2010 à Strasbourg pour loger au-delà des responsabilités respectives de l'État, de la ville, les personnes qui en avaient le plus besoin, et ça ne suffit jamais. En revanche, ce qu'on voit, c'est que structurellement, eh bien, la crise du logement et plus encore la réduction de la production de logements ces dernières années sur un territoire comme celui de Strasbourg, ça a des conséquences aussi directes, y compris pour les plus précaires.
Ben oui, parce qu'en fait, tout part de là, on ne produit pas assez de logements. La dernière étude, oui. Alors toutes les études disent la même chose, hein, c'est 500 000 logements par an qu'il faudrait construire chaque année. Les besoins augmentent, la population augmente, et puis on vit moins nombreux dans chaque logement.
Oui, c'est ça, c'est le mode de vie, c'est ce qu'on appelle la décohabitation. On divorce plus, on vit plus longtemps, on fait plus longtemps des études, et donc cette aspiration à l'autonomie et cette modification de vie, eh bien, ça crée pour finalement le même nombre d'habitants. Eh bien, ça crée quelque chose de plus important. Il y a une étude importante qui montrait que la démographie ne joue pas du tout par rapport à ce qu'on appelle la décohabitation, justement, et ce phénomène de mode de vie qui change. Et puis parfois, on court aussi après peut-être des solutions qui sont insuffisantes parce que soit mal localisées, soit qui ne sont pas à la hauteur en termes d'échelle. J'étais encore en charge à Strasbourg, on avait essayé de lutter contre la vacance des logements. Ça avait commencé d'abord avec la volonté de réquisitionner. On n'était pas allé jusque-là. Personne, d'ailleurs, ne va jusque-là et n'en a les moyens, parce que réquisitionner, pourquoi pas, mais une fois qu'on réquisitionne, comment on entretient le logement, comment on le gère, enfin, c'est aussi une charge que les bailleurs sociaux ne veulent pas forcément récupérer. On est allé sur des taxes au logement vacant, hein. La loi même nationale avait changé pour ce faire, et les mairies volontaristes avaient joué là-dessus. Des taxes, les différentes collectivités en sont passées même à des subventions pour les propriétaires qui remettent leur logement sur le marché. Mais on voit que ça ne suffit toujours pas.
Mais alors, je vous coupe. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur les logements vacants. Je pense que c'est un peu une illusion. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, les médias en ont beaucoup parlé, Virginie. Il n'y en a pas tant que ça, des logements vacants.
D'abord, il faut prendre la définition.
Ils ne sont pas situés au bon endroit.
Oui, alors il y a ça, mais en fait, quand on prend la définition de l'INSEE, c'est une définition très large. Mais qui peut être simplement, par exemple, être entre
deux locataires,
avec une grosse rénovation, ou entre en attendant d'être vendu ou autre. Donc, quand vous écrémez au bout du bout, et c'était la dernière note de Bercy qui date de juillet 24, je crois, et c'était assez drôle d'ailleurs, parce que on vous présente ça comme une solution, et puis à la fin, vous lisez la note et vous faites « so what ?» Parce qu'effectivement, on remarque que la plupart de ces logements sont concentrés dans des zones qui ne sont pas forcément les plus dynamiques en termes d'emploi, qui ne sont pas les plus demandées, et donc c'est bien. Et de toute façon, on sait, il y a certaines communes, le maire d'Autun ne se cachait pas d'ailleurs, enfin à regret hein, d'ailleurs, mais il disait « moi j'ai détruit du logement social, puisque de toute façon, il n'y a personne, il faut l'entretenir, parce que c'est bien beau d'avoir du logement, mais le parc social, ça s'entretient comme tout parc immobilier. » Et donc voilà, donc après on peut mettre des taxes. Bon, alors du coup, les propriétaires les transforment en résidences secondaires pour essayer d'y échapper. Donc ils sont rattrapés par une une autre taxe sur les résidences secondaires. Donc c'est une espèce de course un peu sans grand résultat. Il y a effectivement aussi, on parlait des réquisitions, mais il y a un droit de propriété en France, donc on ne fait pas ce qu'on veut. Et en fait, à un moment, il y a effectivement ces phénomènes où les besoins augmentent des cohabitations, on l'a dit, l'allongement de la durée de la vie. Donc, on reste plus longtemps dans un même logement. Et la façon dont on vivait dans les années 40, 50, 60, 70 n'est pas du tout celle de 2025. Les besoins sont plus variés, des fois plus temporaires. Il y a effectivement beaucoup de gens en mobilité. Enfin, il faut, voilà, le logement, ça doit être une matière vivante. Et là, on a une matière qui est figée, corsetée, où on se dit, tiens, je vais essayer, moi, de grignoter à droite ou à gauche pour essayer de récupérer sur machin ou autre, alors qu'en fait, il faut faire grossir le gâteau.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Construire, entre autres, et du logement social, notamment, et abordable.
C'est ça. Voilà. C'est ça. Abordable et puis de qualité, pardon, parce que aussi, oui. Souvent... Il y a un rejet aussi parce que on nous fait courir après les politiquement j'entends hein, après les logements vacants pour ne pas traiter le fond du problème qui est la construction et le fait que politiquement il est de plus en plus dur d'affirmer et d'assurer la construction de logements et donc on préfère dire eh bien on va libérer des logements vacants on va courir après tel ou tel mirage plutôt que d'assumer le fait qu'il va falloir construire et puis parfois il faut le dire aussi construire mieux plus beau et plus agréable, parce que c'est aussi là où les collectivités essayent, je le dis comme ancien élu, hein, de faire cracher le foncier au maximum, hein, de récupérer un maximum de bénéfices sur les terrains qu'elles peuvent céder ou sur les taxes qu'elles mettent autour, et ce qui oblige aussi les constructeurs à augmenter les prix ou à faire cracher la charge foncière, et donc à avoir des projets qui sont parfois peut-être moins faciles à faire accepter.
Et vous donc, avez évoqué, juste, je vous coupe deux secondes, Paul, vous avez évoqué les élus, il y a le rôle des élus aussi, des maires, hein, les maires bâtisseurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, les maires, ils n'ont pas envie de construire, et on peut les comprendre. Ils sont face à des habitants qui ne veulent pas de nouveaux logements dans leur commune. Hein. Enfin, tous les Français veulent plus de logements, mais pas chez eux. C'est d'ailleurs l'objet de différentes études là, qui sont sorties. La dernière, c'est celle de Procivis, en Ile-de-France. Et c'est vrai, il y a les municipales l'année prochaine. Les maires veulent se faire réélire. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont repousser les permis de construire.
Oui, alors je pense que la tendance, elle s'inverse un petit peu aussi, parce que bah, justement, aujourd'hui, les administrés ils viennent aussi voir le maire pour se dire bah, j'arrive pas à trouver un logement, donc peut-être est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi. Donc, peut-être que ça, c'est ce phénomène est un peu en train de s'inverser. Et après, c'est aussi une question plus large, hein, c'est de savoir, quand vous regardez par exemple une carte avec où sont situés les sièges sociaux du SBF 120. Bon, 98%, c'est Paris. Il y a un moment, il y a un rééquilibrage des territoires, il y a un rééquilibrage de l'activité économique peut-être sur d'autres territoires et d'éviter ces phénomènes de concentration. On va concentrer du logement, ce qui peut être assez dur, hein, la densité urbaine, ça peut être très dur. Il y a des concentrations de logements sociaux aussi qui ne sont pas forcément bonnes. Il faut plus de mixité et donc oui, et ben, des fois il faut imposer aussi aux gens un peu d'avoir... Et quand vous faites du... On disait la construire beau... Alors moi, j'ai entendu des gens parfois dire « ça, c'est du logement social, c'est trop beau pour être du logement social ». Alors là, c'est le pompon sur le... C'est le cherry on the cake. Donc, il faut aussi qu'il y ait une réflexion, pas ville par ville, une concertation des territoires au sens large, plus global.
Vous vouliez réagir, Pascal ?
Moi, au risque de me porter un petit peu en faux, je pense que la vacance n'est pas non plus un sujet à négliger. Donc, avantage qui était déjà une dégradation des systèmes de valorisation fiscale qu'on pouvait donner auparavant aux personnes qui nous confiaient leur logement. Nous, aujourd'hui, on gère un parc de 12 000 logements, donc à peu près 6 000 qui sont portés par des propriétaires privés qui nous confient leur logement. Nous, on voit bien que l'outil fiscal, en tout cas, est clairement un outil qui incite les propriétaires à nous confier ou pas leur logement parce qu'il y a une idée de rendement et c'est logique. Et aujourd'hui, je pense qu'il pourrait y avoir quand même une réflexion globale pour se dire où mettons l'effort fiscal ? Est-ce qu'on le met dans les meublés touristiques ? Il y a quand même un paradoxe en France. On n'a jamais eu autant de familles à l'hôtel et d'autant de logements familiaux qui servent à des touristes. Donc, il y a quand même un vrai sujet
là-dessus. Après, ça va changer là-dessus. Avec la loi Lemeur.
Alors là, la loi Lemeur, à poser un bon diagnostic.
Il faut peut-être prendre le problème par la source.
Oui, je ne dis pas que c'est la solution.
Au propriétaire plutôt d'investir dans votre foncière que de...
Oui, alors la foncière est bien mieux.
Mais c'est vrai.
Mais les propriétaires, en tout cas, qui ont des logements vacants aujourd'hui, ils ont des choix de rendement qui sont devant eux. Et on pourrait mettre le paquet peut-être un peu plus dans une situation de crise telle que celle qu'on vit aujourd'hui sur la mobilisation du logement vacant pour apporter des solutions aux familles.
Parce que Virginie, les locations courte durée sont considérées comme des logements vacants, hein, si je ne me trompe pas.
Je ne me rappelle plus, mais toute façon...
Non. Pas dans les statistiques de l'INSEE. En revanche, je pense que pour rebondir sur l'acceptabilité, parce que je pense que sur la vacance, de toute façon, on le disait, les chiffres de l'INSEE le montrent, on n'est pas à l'échelle du besoin et on n'est pas sur la bonne localisation.
Absolument.
Donc, vous teniez un sujet sur, effectivement, comment on redonne intérêt au maire à construire. Là-dessus, il y a un vrai sujet sur faire en sorte qu'il y ait une fiscalité associée au fait d'avoir de nouveaux habitants et au fait de construire. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui répond aussi et qui rééquilibre entre le risque pris par la construction et l'intérêt finalement à construire. Un deuxième point, si vous me le permettez, aussi jouer sur l'acceptabilité, c'est d'avoir de la diversité des formes urbaines et donc aussi de soutenir plus fortement encore l'aménagement, les opérations d'aménagement dans lesquelles on va avoir à la fois, d'abord, on n'aura pas juste un immeuble juste à côté de chez soi.
Non, c'est les quartiers.
Tout de suite acculés. Voilà, on construit un quartier avec une diversité de formes urbaines, c'est-à-dire
des commerces,
de la maison en bande, des immeubles, mais aussi des commerces, un équipement sportif, une crèche, vous voyez, un gymnase. Enfin, là, on a un projet qui gagne en acceptabilité et qui en masse, hein, là je reviens à l'échelle, hein, puisque on est face à un défi considérable sur ce qu'il faut construire, eh bien on a quelque chose qui est accepté, qui répond en nombre aux besoins et qui a un sens aussi social profond.
Un petit mot juste, on l'a évoqué rapidement, mais personne n'est revenu dessus, sur la qualité du logement. Et Paul, c'est très important d'en avoir parlé, parce que c'est vrai que les constructions sont de moins en moins en bonne qualité. Pourquoi ? Alors, en ayant fait des émissions, en ayant discuté avec des promoteurs, avec des constructeurs, la main-d'œuvre, en fait, est de moins en moins qualifiée aussi. Il y a un sujet de main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre aussi pour la construction.
C'est un cumul global, c'est-à-dire que il faut qu'on donne les moyens aussi à ceux qui produisent le logement de pouvoir bien le produire. Et je crois que à la fois, alors il y a la question de la main d'œuvre, il y a eu la question des matériaux, il y a la question des prix du foncier, je le disais tout à l'heure. Donc c'est tout un ensemble et des normes évidemment. Et donc tout ça est mis bout à bout et chaque sujet est finalement assez légitime de payer les gens correctement, d'avoir des normes à la hauteur de la société que l'on souhaite. Enfin, de payer le juste prix des terrains. Donc chaque prix bout à bout, chaque élément est finalement assez juste, mais mis bout à bout, ça crée un coût qui est insoutenable et un produit de sortie qui chacun en jugera, parce que c'est aussi ça dépend des opérations, des endroits, etc., mais qui parfois est ressenti et vécu comme satisfaisant et qui, encore une fois, crée du rejet alors qu'on doit capter l'acceptation des citoyens si on veut aussi pouvoir produire. Donc la question du coût, il faudra aussi que l'État prenne et les collectivités prennent leurs responsabilités à cet égard pour permettre de la production et de l'acceptation.
Alors, on a l'impression qu'il y a un problème à tous les niveaux. Par quoi il faudrait commencer concrètement pour essayer d'aller de l'avant?
En tout cas, il y a déjà des expériences qui montrent qu'il y a des ensembliers. Alors, je pense notamment à Montpellier où il y a un outil qui s'appelle Altemed qui est intéressant, qui fait à la fois de l'aménagement, du logement social, qui va chercher plein d'opérateurs. Nous-mêmes, avec notre foncière, nous avons une structure qui s'appelle HHDI qui peut prendre un tènement et puis faire du social, du commerce, du libre, on peut mixer les usages. C'est vrai que c'est logique d'avoir des visions d'ensemble et de quartier dans des projets de réhabilitation notamment, sont des logiques qui produisent des résultats intéressants et qui pourraient se développer.
Manuel, peut-être un petit mot.
Oui, effectivement, les élus locaux parfois sont un peu réticents, notamment en période électorale. Hein. Mais il faut dire que c'est de plus en plus compliqué de construire. Donc il faut des aménageurs, il faut une action d'ingénierie sur le foncier. Et pour le coup, comment concilier lutte contre le mal logement, production de logement et le ZAN ? Il y a eu le fonds Friche qui a été créé à la suite du Covid, qui est devenu le fonds vert ensuite. Oui. Ça, c'est une réponse intelligente, intéressante. C'est une manière.
Qui a bien marché. Pas, hein.
Qui a très bien marché, une demande très forte, qui consiste pas simplement à subventionner la demande, parce qu'après, on sait que ça fait augmenter les prix aussi, mais d'agir à la base sur le foncier. Et donc, ce fonds vert, il a été drastiquement réduit dans le projet de loi de finances pour 2025. Donc ça, c'est dommage. L'État devrait investir là où c'est nécessaire, là où c'est pertinent du point de vue écolo et social et économique sur le foncier. Et on voit qu'il n'a pas beaucoup fait. Il faudra aussi prélever une partie de la rente foncière, des plus-values foncières qui sont très fortes parfois, avec une fiscalité qui soit plus redistributive et plus incitative à libérer du foncier là où c'est nécessaire, là où il est constructible, pour construire un peu moins cher. Mais aujourd'hui, on voit bien que la tendance, je trouve, est plutôt à revenir à une liberté laissée aux maires de ne rien faire. On le voit sur beaucoup d'opérations, à la fois sur la question des attributions de logements sociaux, sur la loi SRU, M. Kasbarian, pour faire du logement intermédiaire, avait été prêt à assouplir la loi SRU, qui impose de faire 20 à 25% de logements sociaux par commune. Donc, il faut aussi revenir à l'échelle intercommunale, ça a été dit à un moment, pour qu'on construise la ville à l'échelle de la ville, en fait. La ville ne se construit pas, ne se vit pas à l'échelle de chaque commune. En France, on a des communes toutes petites et ce n'est pas très rationnel. Et on voit, il y a une tendance, je trouve, chez Emmanuel Macron, depuis les Gilets jaunes, à revenir, à dire il faut donner le pouvoir aux maires, c'est eux qui savent, qui sont sur le terrain. Je pense que c'est tout à fait faux et tout à fait contre-productif. Il faut passer à l'échelle intercommunale, à l'échelle de l'agglomération, pour donner les pouvoirs d'urbanisme, de distribution des permis de construire, de pilotage de la politique urbaine, avec des aides de l'État. Et là, l'État, il a encore un rôle à jouer pour financer le foncier, financer le logement social, et puis distribuer des aides aux bailleurs sociaux, et aussi imposer aussi aux acteurs locaux, quand ils font pas bien, leur taper sur les doigts pour qu'ils fassent mieux.
Un petit mot peut-être pour terminer, parce que l'émission touche à sa fin. Virginie, peut-être
Il y a beaucoup de travail. Mais je crois qu'il y a beaucoup de travail à différents étages. C'est-à-dire qu'on peut parler d'un volet fiscalité, on peut parler d'un volet normatif. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de contraintes. Il y a eu une inflation de normes ces dernières années, parfois contradictoire. Donc ça devient contre-productif. Je pense que, à essayer de réparer à chaque fois ce qu'on a fait, je pense qu'en fait, il faudrait desserrer certains étaux et en revenir à des solutions, à des dispositions plus souples. En fait, je pense qu'on manque de souplesse. De concertation, effectivement, et de prendre un peu de recul pour avoir un champ un peu plus large sur ce parcours résidentiel et pas sur problème par problème.
Eh bien, voilà, oui.
Peut-être juste en conclusion, effectivement, voir aussi peut-être l'entrée du sujet par ces 600 000, je crois, et quelques... Et c'est pas le Ekel qui est absolument abusif comme propos. C'est 600 000 solutions qui ont été offertes depuis la mise en œuvre du plan logement d'abord. Et peut-être mettre la focale sur ces solutions qui se sont développées, comme sur ces pensions de famille dont on parlait tout à l'heure, ces maisons intergénérationnelles, tous ces sujets-là qui aujourd'hui ont trouvé leur place.
Assez, hein,
et dont on ne parle pas assez et on met peut-être trop en avant les freins. Et effectivement, c'est dramatique pour tout. Et heureusement que beaucoup de mouvements associatifs refusent de se taire face à l'exclusion qui a des visages terribles dans nos rues, mais peut-être aussi mettre en avant toutes ces solutions qui pourraient devenir système.
Bien, merci beaucoup à vous trois. Merci aussi à Paul Meyer qui était au téléphone avec nous en direct de Strasbourg. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain Mac de Limo le mercredi 26 février à 10h. Pareil, en direct sur LinkedIn. Et là, on parlera de l'investissement locatif. Alors, en détail, justement, le déclin de l'investissement locatif en France. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très vite sur Radio Imo.
Le Mac de Limo by Bérénice sur Radio Imo.